Nous sommes le mardi 19 mai, bonjour à tous et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Baptiste Morigal et d'Ohayon.
À la une aujourd'hui, Lee Jae-myung et Sanae Dakaichi évoquent la coopération bilatérale au cours de leur second sommet organisé dans le cadre de la diplomatie de la navette entre Séoul et Tokyo. Nous évoquerons également les négociations difficiles entre la direction de Samsung Electronics et le syndicat du groupe sud-coréen pour éviter une grève. Et nous terminerons avec l'absence de violation de la ligne de démarcation militaire par la Corée du Nord depuis le début de l'année.
Nous ouvrons ce journal avec le sommet qui s'est tenu cet après-midi à Andong entre Lee Jae-myung et Sanae Dakaichi, l'occasion pour les deux dirigeants de discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale et d'aborder les défis régionaux.
Lors de la conférence de presse tenue à son issue, le chef de l'État sud-coréen a déclaré que sur la base de la confiance bâtie grâce à la diplomatie de navette, ils avaient discuté avec franchise de diverses questions. Il a ajouté qu'il s'était rejoint sur la nécessité de rétablir le plus rapidement possible la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Lee Jae-myung a également affirmé que dans un contexte où la situation internationale évolue rapidement, ils avaient souligné l'importance de la coopération bilatérale, mais aussi trilatérale, avec les États-Unis pour la paix et la stabilité dans la région. Il a ensuite insisté sur l'importance du respect et de la coopération à trois avec la Chine. Le président y a aussi fait savoir qu'avec Sanae Dakaichi, ils avaient échangé des opinions approfondies sur la situation dans la péninsule. Il a ainsi pu expliquer à son interlocutrice la position de Séoul visant à construire un environnement dans lequel les deux Corées coexistent pacifiquement et se développent ensemble. Concernant les questions liées au passé, il a rappelé que l'analyse ADN des restes retrouvés dans la mine de Josei au Japon commencera bientôt. D'après lui, c'est un premier pas modeste mais significatif dans la coopération entre les deux voisins sur les sujets liés à l'histoire. De son côté, la chef du gouvernement japonais a déclaré que dans une société internationale en pleine turbulence, la communication bilatérale revêt une grande importance et l'a ajouté avoir échangé avec son hôte avec franchise non seulement sur les relations entre la Corée du Sud et le Japon, mais aussi sur la situation au Moyen-Orient. Elle a ensuite confié qu'il s'était mis d'accord pour faire progresser la coopération bilatérale sur les questions de sécurité. Enfin, elle lui a proposé de se retrouver dans une belle station thermale japonaise.
Quel est le programme pour la suite de la visite de Sanae Dakaichi?
Les deux dirigeants dîneront ce soir au village folklorique de Hawae. Le repas mettra à l'honneur le charme et la gastronomie traditionnelle coréen. Il comprendra un mets considéré comme l'ancêtre du timtak de Andong, un plat de poulet braisé à la sauce soja, ainsi que des côtes de bœuf grillées de Andong. Des accords traditionnels locaux, comme le soju d'Andong, seront également servis. Après le dîner, ils assisteront au Sonyu Julbulori, à l'embarcadère du village, un spectacle traditionnel de feux d'artifice qui marquera la fin du programme officiel de la journée. Dakaichi quittera la Corée du Sud demain matin via l'aéroport de Daegu.
International toujours avec les suites de l'attaque du HMM Namu dans le détroit d'Ormuz. Téhéran a annoncé poursuivre ses enquêtes sur son auteur et n'exclut pas l'intervention d'un pays tiers.
Exactement. Lors d'un point de presse, le porte-parole de la diplomatie iranienne a mis en garde contre ce qu'il appelle les opérations sous fausse bannière, des actions menées clandestinement par un État afin d'en faire porter la responsabilité à un ennemi ou à un tiers. S'il n'a pas mentionné un pays en particulier, il aurait voulu viser Israël. Ismaël Bagaï a ajouté que depuis l'incident survenu le 4 mai dernier, la République islamique continue de s'interroger sur son auteur et de mener des investigations comme elle le fait pour tous les autres événements inattendus qui se produisent dans la région.
Il a également évoqué les relations entre Séoul et Téhéran à la suite de l'échange téléphonique entre les chefs de la diplomatie des deux pays lundi.
Oui, Bagaï a affirmé que les relations bilatérales étaient toujours bonnes et que les deux parties continuaient de coopérer, la Corée du Sud ayant des préoccupations particulières à l'égard de la sécurité de navigation dans le détroit. Pour rappel, hier, Chuyan avait demandé à son homologue iranien Abbas Araghchi de clarifier la position de l'Iran sur l'attaque de HMM Namu.
Thank you. En Corée du Sud, à présent, avec les ultimes négociations chez Samsung Electronics à 2 jours de la grève annoncée par le syndicat de l'entreprise.
Les discussions se portent sur les salaires. Des discussions entamées la veille dans le cadre de la deuxième phase de la procédure de post-médiation menée sous l'égide du gouvernement. L'attention se porte sur la possibilité pour la Commission des relations du travail de formuler une proposition finale de médiation sur la base des revendications exprimées par la direction et le syndicat. Une telle proposition peut avoir une valeur juridique équivalente à celle d'une convention collective si elle est acceptée et signée par les deux parties.
Avec une issue qui pourrait être positive selon le gouvernement.
Oui, hier la commission gouvernementale s'est entretenue séparément avec les représentants du patronat et ceux des salariés qui ont expliqué leur position, notamment sur les critères d'attribution des primes de performance, ainsi que sur leur plafonnement, principal point de désaccord des négociations. À l'issue des discussions, un responsable de la commission a estimé qu'un terrain d'entente était en train d'être trouvé. Pour rappel, si ces ultimes pourparlers échouent et que la grève annoncée se concrétise, le gouvernement pourrait recourir à la procédure d'arbitrage d'urgence qui permet d'interdire un mouvement social pendant 30 jours lorsqu'il est jugé susceptible de nuire à l'économie nationale.
Sur le front de l'emploi, un chiffre inquiète, celui du nombre de personnes dans la vingtaine en activité qui continue de diminuer.
Tout à fait. Selon les données publiées ce matin par l'Agence nationale des données et des statistiques, au quatrième trimestre 2025, il a baissé de 111 000 postes, soit la plus forte baisse parmi toutes les tranches d'âge. Une tendance qui se poursuit pour le 13e trimestre consécutif depuis le quatrième trimestre 2022. Le recul s'est principalement concentré dans l'industrie manufacturière, la construction et le secteur des technologies de l'information et des communications. À l'inverse, le nombre d'emplois chez les personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté de 246 000, principalement dans les secteurs de la santé et de l'aide sociale, de l'industrie manufacturière, ainsi que des services aux entreprises et de la location. Le taux d'emploi chez les 60 ans et plus était ainsi supérieur à celui des moins de 30 ans, 19,5 contre 13,6%.
Toutefois, au global, les chiffres sont positifs.
Oui, le nombre total d'emplois salariés s'est élevé à un peu plus de 21 millions en novembre dernier, une hausse de 221 000 sur un an. En détail, le secteur de la construction a perdu 88 000 emplois, tandis que ceux de la santé, du social et de l'aide sociale en ont gagné 126 000.
Autre sujet à présent avec la sécurité routière et la volonté de l'Agence nationale de la police d'assouplir la limitation de vitesse dans les zones scolaires.
Une information relayée par l'agence Pressionap qui révèle que la police a commandé début mai une étude à la Co-Road, l'organisme chargé de la sécurité routière, afin d'examiner des pistes d'amélioration du système de limitation de vitesse aux abords des écoles. Les résultats de cette étude seront soumis au groupe de travail chargé du projet dit de normalisation de la nation lancé par le gouvernement le mois dernier. Pour l'heure, les autorités privilégient un relèvement différencié de la vitesse maximale autorisée uniquement la nuit ou les jours fériés par exemple, plutôt qu'un assouplissement généralisé.
Et qu'en est-il actuellement de la réglementation près des écoles ?
Eh bien actuellement, la vitesse est limitée à 30 km/h dans les zones scolaires de jour comme de nuit. Selon la police, près de la moitié des accidents impliquant des enfants piétons dans ces zones au cours des 3 dernières années se sont produits entre 14h et 18h, c'est-à-dire aux heures de sortie de classe. À noter que depuis septembre 2023, la limitation a déjà été relevée à 40, voire à 50 km/h entre 21h et 7h du matin dans 78 des 16 000 zones scolaires à travers le pays.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Page Corée du Nord pour terminer avec Séoul qui n'a relevé aucune violation de la ligne de démarcation militaire, la MDL, par la Corée du Nord depuis le début de l'année.
C'est ce qu'ont indiqué mardi plusieurs sources militaires sud-coréennes. Ce contrat contraste avec la situation observée l'an dernier lorsque des soldats nord-coréens l'avaient franchi à 17 reprises. En décembre 2023, Pyongyang avait affirmé que les deux Corées constituaient deux États distincts et hostiles. Puis en avril 2024, le régime de Kim Jong-un avait lancé des travaux de délimitation de la frontière le long de la MDL. En 2025, les violations de la ligne par des militaires mobilisés pour des opérations de défrichement dans la zone démilitarisée s'étaient multipliées. À chaque incursion, l'armée sud-coréenne avait procédé à des avertissements radio et à des tirs de sommation afin de les repousser. En février dernier, le chef d'état-major interarmée sud-coréen avait d'ailleurs appelé l'armée de terre à renforcer sa posture de préparation face à d'éventuelles provocations nord-coréennes de ce type. L'absence de nouvelles incursions cette année laisse penser que les travaux de défrichement à la frontière sont pratiquement achevés. Selon certaines sources militaires, le Nord aurait commencé à aménager des routes et à installer des clôtures barbelées sur les terrains dégagés.
Merci d'avoir suivi ce journal. Retrouvez plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, Séoul au jour le jour, présenté par Clément Charles. Bonne soirée sur KBS World Radio.